France Inter, le 18-20.
Et voici le téléphone sonne, c'est votre émission. On attend vos appels, vos courriels et notre thème ce soir, les suites de l'agression cette semaine de deux gardiens par un détenu radicalisé à la prison de Condé-sur-Sarthe, une des plus sécurisées de France. Ça s'est passé dans une unité de vie familiale. Le prisonnier y retrouvait sa compagne qui avait introduit un couteau en céramique. Elle a été tuée lors de l'assaut des policiers. Et cette affaire pose plusieurs problèmes. Les failles de sécurité dans les prisons, les contrôles des détenus et des visiteurs. Et puis autre problème, la gestion des détenus radicalisés. Quelques chiffres sur plus de 70 000 détenus en France. Environ 500 personnes sont incarcérées pour des faits de terrorisme islamiste. Et environ 1 000 prisonniers de droit commun ont été identifiés comme radicalisés.
Pierre Veille, le téléphone sonne.
Pour répondre à vos questions ce soir dans ce studio, à mes côtés, Madame Wizakiès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, spécialiste de la radicalisation en prison, directrice de Dialogue Citoyen. Vous êtes spécialiste de ce dossier. Vous avez travaillé avec de nombreux détenus radicalisés.
Oui, effectivement, depuis une dizaine d'années, en fait, j'interviens en prison et l'ancien directeur de l'administration pénitentiaire, Monsieur Darcourt, avait sollicité des chercheurs dès 2009 pour travailler sur cette question-là.
Autre invité, Samuel Dehon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat national pénitentiaire Force ouvrière. Et puis, au téléphone avec nous, Damien Pellen. Bonsoir, Monsieur Pellen.
Bonsoir.
Vous êtes premier secrétaire du syndicat national des directeurs pénitentiaires CFDT. Au standard, un premier appel, il y en a beaucoup, hein, et pas mal de courriels, déjà des questions à propos de cette affaire. C'est Jackie qui est avec nous. Bonsoir Jackie.
Bonsoir Pierre.
On vous écoute, posez votre question.
Merci, bonsoir les France Inter et les invités. Ma question porte sur la manière de gérer l'ensemble de l'incarcération. C'est-à-dire que dans les pays scandinaves, nous avons des prisons qui faute de prisonniers, parce qu'il y a un accompagnement social et une réinsertion et une véritable volonté politique d'aller dans un autre système que celui vers lequel nous allons, qui est plutôt celui des États-Unis, où on a plus de 3 ou 4 millions de prisonniers dans des prisons privées. Est-ce que cette approche scandinave est suffisamment abordée dans l'ensemble des prisons françaises? Bien sûr, il y a des gens qui sont radicalisés, mais beaucoup disent que la prison, en fait, est une école de la radicalisation, que la haine se développe, et que lorsque les gens rentrent, des fois pour des simples vols ou des choses, enfin des délits mineurs, relativement mineurs, ressortent avec des positions radicales. Alors, est-ce qu'on a raison de mélanger les personnes qui sont primaires lorsqu'elles ont fait des faits de délinquance pour la première fois, avec des gens qui sont des personnes qui sont véritablement dangereuses? Est-ce que ce programme scandinave ne pourrait pas être-t-il plus étudié en France plutôt que d'aller vers une incarcération systématique comme c'est le fait aux États-Unis? Oui. Et qui pose beaucoup de problèmes.
Très bien. Jackie, on a compris votre question. Vous avez évoqué un mélange de détenus, des détenus qui seraient là pour des peines très courtes, qui seraient mélangés avec d'autres détenus. Je crois qu'en ce qui concerne les détenus radicalisés, c'est pas tout à fait le cas. On aura l'occasion d'y revenir au cours de l'émission. Damien Pellen, cet exemple scandinave qu'évoque Jackie.
C'est bien la grande question de la politique pénale en France, où nous pensons peine par l'incarcération et uniquement l'incarcération. On a, pendant des années, alors même qu'il y a des alternatives à l'emprisonnement, des réponses pour l'opinion publique qui sont la peine de prison. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça ne va pas et ça ne suffit pas dans la prise en charge. La France n'arrive pas à se positionner sur la possibilité de ne pas écrouer des gens pendant tout un parcours de peine.
Un courriel, c'est Fabienne qui est...
Oui. L'opinion publique pense que la seule manière de punir, c'est la prison.
on a bien compris. Pardon, hein, comme on ne se voit pas, vous êtes au téléphone, c'est pas très facile. Je vous ai interrompu. Je voulais lire ce courriel de Fabienne de Marseille qui complète ce qu'évoquait Jackie il y a quelques secondes. Elle nous demande quels sont les dispositifs mis en place lorsque des détenus radicalisés entrent en prison. Sont-ils tout de suite séparés des autres prisonniers? Oui, Zakiès, vous pouvez répondre. Vous avez rencontré des détenus radicalisés.
J'aimerais déjà répondre sur la peine de prison. C'est effectivement il y a des prisonniers, mais la majorité des personnes effectuent leur peine en milieu ouvert. Hein, plus de 120 000 individus sont condamnés en milieu ouvert, et que la peine de prison c'est environ 70 000 détenus. Donc on voit bien aussi qu'il y a d'autres alternatives à l'incarcération. Ça existe, et ce depuis longtemps. Concernant les personnes incarcérées pour des faits de terrorisme. On ne parle pas des détenus de droit commun qui seraient susceptibles de se radicaliser. Eh bien, malheureusement, ces personnes-là arrivent effectivement dans des maisons d'arrêt, puisque les maisons d'arrêt accueillent à la fois des courtes peines, mais aussi ce qu'on appelle les mandats de dépôt. Et la majorité des 500 individus incarcérés pour des faits de terrorisme liés à l'islam radical se trouvent en mandat de dépôt. Donc, il n'y a pas suffisamment de place dans des quartiers étanches. Il n'existe pas à ce jour de quartiers vraiment étanches. Et la majorité se trouve en détention classique, à la fois avec des détenus de droit commun, à la fois les courtes peines, comme des peines plus longues en attente de transfert vers des établissements pour peine.
Mais de nombreux courriels d'auditeurs nous disent comment fonctionnent ces quartiers de prise en charge de la radicalisation qui existent dans les prisons françaises. Samuel Dehon, je rappelle, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat national pénitentiaire Force ouvrière.
Alors, on appelle ça les CAIR, hein. Donc c'est un nouveau système qui a été mis en place, qui fait la succession des unités dédiées et des UPRA qu'on appelle, qui était dans un principe et une base d'essayer de déradicaliser les détenus qu'on considérait comme radicaux.
Donc il y a bien des quartiers particuliers.
Il y a des quartiers particuliers, mais ces quartiers sont utilisés à des fins d'évaluation de la dangerosité du détenu. Et ces quartiers sont utilisés dans des séquences partielles de l'emprisonnement du détenu.
Alors, ce qui veut dire
que le détenu radical va passer dans le CAIR pendant un certain nombre de mois, à peu près 3 mois. On va juger sa dangerosité, et en fonction, les agents qui gèrent ces quartiers vont émettre un rapport qui sera transmis à une commission pluridisciplinaire qui va mettre un avis et transmettre ça à l'administration centrale afin d'établir la suite du parcours pénal et d'incarcération de ces détenus. Alors, il y aura 3 choix possibles. L'isolement pour les plus dangereux. Mmh. Alors, un isolement dans les quartiers d'isolement. Alors ça, dans toutes les maisons d'arrêt et dans tous les centres de détention, il y a des quartiers d'isolement pour les détenus dangereux, qui sont considérés dangereux, mais la grande majorité de ces détenus-là retournent en détention classique et retournent auprès des autres détenus, dans les maisons d'arrêt surpeuplées, avec des doublettes de cellules, voire 3 détenus dans la cellule. Et donc, il n'y a pas véritablement d'isolement total de ces détenus. Non plus dans ces quartiers spécifiques qui sont comme à Fresnes, tout au milieu d'une coursive où on a d'autres détenus, notamment des détenus médiatiques.
Damien Pellen, premier secrétaire du syndicat national des directeurs pénitentiaires.
Oui, je voulais rajouter que au-delà de l'évaluation dans les quartiers d'évaluation, il y a les quartiers de prise en charge de personnes radicalisées qui viennent d'ouvrir. Mais notre grande difficulté au sein de l'administration pénitentiaire, c'est que au-delà des évaluations qui peuvent être conduites, il faut qu'on puisse travailler sur le désengagement du passage à l'acte violent. Je ne pense pas qu'on puisse déradicaliser une personne comme ça en quelques mois ou en quelques années. En revanche, lui permettre de se désengager d'un passage à l'acte violent, c'est possible. Mais l'administration pénitentiaire est assez prémisse sur cette prise en charge. Et on est face à un phénomène certes est connu depuis longtemps, la preuve, Madame Thiès nous l'a rappelé tout à l'heure, mais qui nécessite du temps et aussi de connaître de manière très précise toutes les personnes que l'on admet dans ces quartiers.
Oui, Zakiès, je rappelle, un sociologue spécialiste de la radicalisation en prison. Moi, si je comprends bien l'ensemble des témoignages, il y a quand même des unités spéciales dans les prisons françaises. Il y a une évaluation de la radicalisation qui est réalisée. Il y a des détentions différenciées. Vous aviez l'air de dire non.
Alors, c'est très peu hein, de quartiers d'évaluation de la radicalisation.
Mais ça existe.
Ça accueille à peu près 15 personnes, il me semble, sauf erreur de ma part, qu'il y en existe 5 ou 6, je ne sais pas. Donc c'est très peu. Ça peut accueillir 15 individus. Et pour l'instant, on essaye d'évaluer et effectivement des individus qui sont incarcérés pour des faits de terrorisme. Sauf que quand on met des individus dans un quartier qui se savent évaluer, et dans un temps très court, c'est effectivement, comme le disait, c'est 3 mois ou 4 mois, c'est extrêmement court, et les détenus se conditionnent aussi à cette évaluation-là. Donc c'est très biaisé. La difficulté dans les maisons d'arrêt et dans les prisons françaises, on parlait effectivement des pays d'Europe du Nord qui ferment des prisons, on est loin de cela parce qu'aujourd'hui, dans les prisons, la question de la réinsertion est vraiment très peu étudiée. Hein. Les conseillers d'insertion et de probation sont très peu nombreux en présents, en tout cas en détention.
Paul est en ligne avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors, moi, je crois que je vais mettre un pavé dans la mare. On se pose la question ce soir de comment gérer la cohabitation entre des détenus de droit commun et des détenus radicalisés ou terroristes. Alors moi je dirais, je trouve ça très naïf. Je pense que ces gens-là portent atteinte à la sécurité nationale, au territoire national, sont traîtres à leur pays, à leur patrie. Pour moi, ils devraient être pris en charge par des tribunaux spéciaux avec des règles spéciales et surtout pas aller rejoindre des détenus de droit commun, de simples détenus de droit commun, si j'ose le dire, ni en pénal, ni en correctionnel, ni aux assises. Et ils devraient être jugés et pour moi, il devrait y avoir des prisons militaires parce que ce sont des soldats. Ils ont pris les armes contre leur pays ou contre les pays avec lesquels on a des accords internationaux qui font partie de l'ONU. Et donc, c'est les militaires, ce sont les seuls qui peuvent leur tenir tête et cesser d'être naïf comme ça, parce que ce sont des idéologues, ces gens-là, ils savent très bien s'adapter à toutes les évaluations, ils connaissent ça par cœur, ils ont appris ça depuis longtemps. Donc je trouve ça très naïf et je trouve qu'il faut soulager les gardiens de prison auxquels je plains de tout mon cœur, et je trouve qu'il faut cesser de faire ça, qu'il faut faire un statut spécial pour ces gens-là et prendre de vraies dispositions françaises et européennes, bien sûr, pour se mettre à l'abri du terrorisme.
Voilà, cette opinion en direct de Paul. Damien Pellen, votre réaction ?
Là, il y a un mélange qui est fait entre la personne qui peut être radicalisée ou avoir une pratique religieuse radicale et la personne terroriste qui est passée à l'acte sous couvert d'être un religieux ou avoir une religion fanatique. Donc là, c'est toute la distinction entre je suis radicalisé et j'ai le droit d'avoir une pratique religieuse radicale, mais je n'ai pas le droit et c'est interdit de commettre des faits terroristes. Et là, l'interlocutrice mélangeait un petit peu les deux.
Complètement.
Vous y acquiescez ?
Ah oui, je suis complètement d'accord. Il y a autant d'individus radicalisés. Enfin, ils sont tous très différents. Tous ne sont pas des idéologues. Tous ne sont pas des soldats. Et que en France, on a quand même la chance de juger individuellement les personnes. Donc, effectivement, quand on connaît pas trop le système de la prison, on a l'impression que on peut tout à fait créer du jour au lendemain des prisons, alors que ça met des années. Et puis, ces individus vont sortir. Donc, on mélange beaucoup de choses. Là, le but de la prison, et que ce soit en direction de ces individus-là qui sont incarcérés pour des faits de terrorisme, c'est de les désengager de la violence. Qu'ils soient radicaux dans leurs pratiques religieuses, orthodoxes, etc., ce n'est pas en soi un problème.
Mais est-ce que c'est votre travail ? C'est ce que vous faites contacts avec des détenus radicalisés, puisque, je rappelle, vous êtes directrice de Dialogue Citoyen et que vous avez travaillé avec de nombreux détenus radicalisés.
Alors, on a effectivement, j'ai dirigé une recherche action
Comment on fait
2015.
Pour déradicaliser ?
Alors, ça dépend de la définition. La radicalisation, c'est un processus. Ça veut dire que ce n'est pas du jour au lendemain, contrairement à ce qu'on a pu l'entendre. On doit prendre en compte le parcours des individus. Et la radicalisation, c'est à un moment donné basculer dans un parcours de rupture dans les discours et les comportements. Ce qui n'est pas en soi illégal. Hein. On a ça dans des religions très orthodoxes, etc. Ce qui est problématique, c'est lorsqu'on utilise la violence pour imposer justement cette idéologie-là. La déradicalisation ou le désengagement de la violence, c'est ça. C'est à un moment donné être soi tout en étant avec les autres et ne pas utiliser la violence, donc tout ce qui est illégal, pour vivre, pour imposer, en tout cas pour vivre dans la société. C'est ça la déradicalisation. Mais il est très difficile aujourd'hui d'évaluer les programmes de déradicalisation parce que malheureusement il y a des choses qui ont été des bonnes pratiques qui existaient déjà depuis très longtemps au sein des prisons, voire en dehors. Mais ça demande des années, effectivement, pour évaluer si les personnes peuvent se désengager. Par ailleurs, ce n'est pas en prison qu'on déradicalise. C'est-à-dire que la prison, c'est aussi le bout d'un parcours d'échec. C'est un monde extrêmement violent qui accueille à la fois de plus en plus de malades mentaux, il faut le dire, des personnes extrêmement violentes au-delà de la question de la radicalisation. Donc les prisons françaises, comparativement à la Suisse par exemple, on ne mélange pas en Suisse, dans les prisons suisses, des mandats de dépôt, c'est-à-dire des personnes qui attendent leur jugement et des personnes condamnées, ce qui est loin d'être le cas en France.
Mais j'essaie d'imaginer ce que ça peut être un entretien de déradicalisation avec un détenu fanatisé. Comment on lui parle? Qu'est-ce qu'on lui dit?
On n'est pas dans le contre-discours. Je sais qu'en France, on est beaucoup dans ça. Contre-discours, déjà, c'est très péjoratif. L'autre peut l'entendre très mal.
Oui,
on ne crée pas du lien.
À l'instant, j'ai reçu ce mail de Marc. Il faudrait peut-être faire venir des imams en prison pour intervenir dans des programmes de déradicalisation.
Mais ils existent. Il y a des aumôniers, effectivement, musulmans, qui participent, effectivement, à des programmes, à la fois dans des groupes, parce que les individus sont tous différents, mais à un moment donné, il faut les confronter aussi à d'autres détenus qui ne pensent pas comme eux et débattent, les écouter aussi, et ça demande du temps. Les aumôniers sont tout à fait aussi dans ces programmes-là et partout en France.
Au nom des gardiens de prison, juste, Samuel Dehon.
Juste mettre un peu quand même des limites sur la volonté réelle de vouloir déradicaliser des personnes qui sont vraiment des soldats. Hein. On a affaire à des gens qui sont fanatiques, qui bien souvent cachent leur réelle velléité et tout d'un coup se réveillent et agressent nos collègues. Pour exemple, on a connu à la maison d'arrêt du Val-d'Oise le premier CAIR, mais on appelait ça les UPRA, hein, qui avait vraiment pour but de tenter de déradicaliser des détenus qui étaient volontaires pour intégrer ce processus.
Je traduis quand même parce que c'est un peu technique. CAIR, c'est quartier
d'évaluation de la radicalisation. Voilà. Donc maintenant, le système, il y a eu un échec à la maison d'arrêt du Val-d'Oise cuisant sur la déradicalisation puisqu'on a eu un attentat le 4 septembre 2016 qui avait touché deux collègues. Et donc, à l'époque, Monsieur Hervois avait mis fin à ces unités dédiées qui avaient pour but de déradicaliser certains détenus, puisque le détenu avait caché sa volonté. Il était même intégré, il devait même intégrer une activité commune avec d'autres détenus parce qu'on le considérait comme plus ou moins réinsérable dans la détention normale. Et il est passé à l'acte. Vandin Levieille, pareil, un terroriste pur et dur. Et du temps, malheureusement, on n'en a pas. Du temps, on n'en a pas. Nous, on est en mouvement depuis ce qui s'est passé quand même cette semaine, avec encore un nouvel attentat, avec un détenu qui avait déjoué, lui, qui n'a pas commis d'acte de terrorisme, mais qui avait c'était plus ou moins radicalisé en prison lors de son... et qui était connu des renseignements pénitentiaires, oui. Où il y avait eu un signalement à l'administration centrale sur la dangerosité et le risque de passage à l'acte. Et malheureusement, il y a eu des systèmes qui lui ont permis d'intégrer une UVF alors que il était quand même connu comme dangereux. Il y a plus trop de temps.
Justement,
ça fait trop longtemps.
À ce propos, on a reçu ce courriel à l'instant. Patrick à Brest, il nous demande, évidemment, la question revient très souvent ce soir, sous quelles conditions les détenus peuvent-ils accéder aux unités de vie familiale? Il demande, il n'y a pas d'interdiction pour les détenus radicalisés. Damien Pellen, pour les directeurs pénitentiaires.
Oui, pour l'accès aux unités de vie familiale, il n'y a pas d'interdiction, quelle que soit la personne. Il y a une évaluation de la possibilité d'accéder à l'unité de vie familiale. Et on peut demander au préalable, avec les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, de prendre contact avec la famille. Et ensuite, on se réunit au sein d'une commission interne à l'établissement pour voir si la personne peut accéder ou pas à l'unité de vie familiale en fonction de tous les éléments que l'on a. De fait, on ne peut pas interdire à une personne détenue, pour les faits pour lesquels elle est écrouée, l'accès à une unité de vie familiale.
Et qu'est-ce que c'est qu'une unité de vie familiale? La question revient sur le site, ça signifie quoi exactement? C'est-à-dire que le détenu se retrouve en famille, tranquillement, sous surveillance, mais dans une pièce fermée, sans indiscrétion?
Ce sont des appartements qui sont composés d'une pièce principale, salon cuisine avec deux chambres et une salle de bain. Et les familles sont admises avec la personne détenue de 6 à 72 heures avec des contrôles réguliers des personnels de l'établissement.
On va aller au standard du téléphone sonne. Pierrot patiente depuis presque 10 minutes. Bonsoir Pierrot.
Bonsoir à vous. Bonsoir à vous tous.
Vous êtes sur l'antenne. Posez votre question.
Ma petite question, moi, c'était, je voulais savoir si en France, dans notre pays, les incarcérés pouvaient pratiquer librement donc leur religion, s'il y avait donc un suivi, donc ça a été un peu évoqué, et je voulais savoir s'il y avait une approche pédagogique, laïque, des religions, s'il y avait des cours d'histoire, des choses comme ça, qui pourraient éclairer la lanterne de quelques incarcérés.
Wiza Kies, sociologue spécialiste de ces dossiers de radicalisation en prison.
Alors oui, effectivement, c'est un droit, hein, le droit de culte dans tout milieu fermé, et notamment les prisons, les hôpitaux, les internats, et l'armée aussi. Donc les détenus ont accès effectivement à différents cultes selon leur confession. Ensuite, il y a différentes activités, et ça, que ce soit sur un travail avec l'éducation nationale qui intervient, il y a des intervenants extérieurs, des associations qui interviennent. Donc oui, les détenus ont accès à différentes activités. Beaucoup plus difficilement dans les maisons d'arrêt, surtout autour des grandes agglomérations comme la région parisienne, la région lyonnaise et lilloise, parce que il y a une surpopulation carcérale, mais ça existe, évidemment.
Damien Pellen.
Oui, sur les cours et l'ouverture aux autres, nous essayons de le mettre en place, mais c'est souvent sous la forme du volontariat. On peut proposer aux détenus, mais il y a quand même chez certains un intérêt pour avoir les débats sur l'actualité, sur les religions, et ça fonctionne plutôt bien quand on peut les mettre en place. Une fois de plus, ce sont des choses qui prennent du temps, c'est-à-dire que les intervenants construisent leurs interventions avec le public qu'ils ont en face, et ça s'enchaîne sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et c'est vrai qu'en maison d'arrêt, la difficulté, c'est que les publics étant très peu de temps en détention, on a du mal à mettre ces dispositifs en place.
Alors, on a évoqué ces quartiers d'évaluation de la radicalisation. Il y a aussi des quartiers de prise en charge de détenus radicalisés. Et lorsque, là, à l'instant, Pierrot parle des pratiques religieuses en prison, est-ce que là, le renseignement pénitentiaire qui existe désormais intervient et peut aussi, là, recueillir des informations qui peuvent être utiles pour la sécurité dans les prisons, Damien Pellen?
En effet, nous avons, on voit très bien des gens qui ont des comportements ou des pratiques religieuses radicales, ou quand une personne est sur une coursive avec d'autres détenus, il y a des changements de comportement, donc il y a des points d'exclamation, ou en tout cas des attentions qui sont portées, et on peut analyser, mais c'est comme toute personne, le comportement des uns et des autres, et la pratique religieuse comme une pratique, comme toute autre pratique, est prise en compte au titre du renseignement pénitentiaire.
Samuel Dehon, secrétaire général adjoint du syndicat national pénitentiaire Force ouvrière, ce renseignement pénitentiaire, ça marche bien ?
C'est important, c'est une nouveauté, hein. On a intégré le renseignement, ça marche bien puisque leur enseignement avait focalisé la dangerosité et le risque de passage à l'acte du détenu qui a agressé nos collègues de Condé. Donc il y avait vraiment eu une remontée d'informations.
Des mouches aussi, hein, des mouches à l'époque déjà en 2014.
Voilà, il y avait eu de remontées d'informations qui sont transmises, hein, c'est centralisé par le référent du renseignement sur les établissements, qui remonte l'information à sa direction interrégionale et à la direction de l'administration pénitentiaire qui, elle, décide des suites à donner par rapport aux informations qui remontent. Malheureusement, sur cette affaire-là, on s'est aperçu que les informations avaient bien été remontées et que, malheureusement, il n'y avait pas eu des décisions ou pas d'informations sur le terrain, parce que les détenus sont souvent transférés, etc., notamment quand ils posent des difficultés et quand ils arrivent sur des nouveaux établissements. La suite n'est pas toujours immédiate sur les informations. Mais ça marche, puisqu'on a quand même déjoué un certain nombre d'attentats, même des attentats qui auraient pu se faire à l'extérieur. Hein. Voilà, il y a des informations et il y a une coordination avec tous les services de renseignement. Et c'est ça qui est important, c'est que les renseignements pénitentiaires sont intégrés dans la grande famille du renseignement national.
Un de vos collègues disait, on l'avait interrogé sur France Inter, que le détenu qui a commis cette agression cette semaine avait été enregistré au téléphone il y a 2 ou 3 ans par les services de sécurité, et que dans cette conversation, il disait qu'il voulait égorger un gardien.
Oui, ça, on confirme.
Et l'information, donc, avait été recueillie, mais elle n'est pas revenue sur le terrain auprès des gardiens qui, au jour le jour, surveillaient ce détenu et qui auraient peut-être été un peu plus sur la défensive. Ils ont été surpris par ce qui s'est passé.
Ah, ils ont été surpris, bien sûr qu'ils ont été surpris. Ils ne s'attendaient pas à être attaqués de la sorte en ouvrant une porte. Donc, attaqués non seulement par le détenu, mais par la famille, oui. par l'épouse de ce terroriste. Et des failles de sécurité, oui, il y en a dans nos établissements. Et c'est pour ça que nous, on demande au personnel de se mobiliser dans un mouvement social. Parce qu'il faut réclamer des moyens.
Combien de personnes actuellement sont surveillées par le renseignement pénitentiaire dans les prisons françaises?
Tous les détenus sont plus ou moins surveillés. Le renseignement pénitentiaire part du surveillant, le surveillant d'étage. Transmet toutes les informations. Je veux dire, un détenu qui se radicalise, ça peut être un détenu lambda qui intègre la détention normalement, qui reçoit des pressions d'autres détenus radicaux pour le pousser, notamment on a connu des détenus qui ne dormaient plus dans le lit, par exemple, qui étaient obligés de dormir par terre, comme les intégristes le font, du jour au lendemain. Et ça, c'est le surveillant d'étage qui s'aperçoit du changement de comportement et qui fait remonter ces informations au renseignement. Donc vous avez déjà tous les détenus qui sont focalisés, radicalisés. Nous, on en compte 1200 à 1500 dans nos établissements, et plus tous les détenus qui sont incarcérés pour les faits de terrorisme.
Damien Pellen.
Oui, je voulais revenir sur le renseignement pénitentiaire qui a été créé il n'y a pas très longtemps. Mais on l'a toujours fait, et comme le disait M. Lyon, le surveillant fait du renseignement au quotidien, en fait, quand il constate au gré de ses journées. Mais la difficulté de l'administration aujourd'hui, c'est qu'elle a créé ce service de renseignement pénitentiaire avec une hiérarchie parallèle à la hiérarchie de la prise en charge des personnes détenues. Et il y a un couloir du renseignement pénitentiaire et un couloir de la prise en charge. Et il n'y a pas de lien, pas forcément de lien entre l'un et l'autre. Et là, nous sommes confrontés à une réelle difficulté.
À Albertville, Yann nous écoute et voulait interroger nos invités. Bonsoir Yann.
Oui, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Merci bien, bonsoir à tous. La question de que faire des personnes radicalisées est une question importante, je le conçois, mais j'entends très peu parler des problèmes en amont. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, peu de personnes étaient radicalisées et commettaient ce genre de d'actes, on n'en entendait pas parler. J'entends très peu parler aujourd'hui des raisons qui font qu'on a des personnes radicalisées. Il me semble que les sciences humaines, la psychologie cognitive, je pense à des personnes comme Nicolas Gauvry, des sociologues comme Gérald Bronner qui ont travaillé sur la radicalisation, peuvent apporter une explication au moins partielle de qu'est-ce qui pousse un individu à se construire dans un chemin qui le mène à la radicalisation. Et on entend très peu parler de ce travail en amont vers nos enfants qui aujourd'hui, pour certains, sont en souffrance sociale, etc., sont les terroristes potentiels de demain. Et il y a très peu de débats, très peu de questionnements sur qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour empêcher des individus de se construire dans cette voie-là.
Yann, on va vous répondre, Madame Wizakies, sociologue.
Oui, alors c'était peut-être effectivement les gouvernements successifs ont très peu mis les moyens sur ce phénomène, de comprendre le phénomène qui date en France quand même depuis la fin des années 80, mais beaucoup de chercheurs ont travaillé dessus. Je pense à Farhad Khosrokavar sur la question de l'islam des jeunes, à Samir Amgar sur le salafisme et j'en passe. D'autres, quand effectivement il n'y avait plus vraiment d'attentats. Sur l'administration pénitentiaire, je tiens quand même à saluer le travail de l'administration pénitentiaire. J'en parlais tout à l'heure de l'ancien directeur, monsieur Darcourt. Alors, il y a eu à un moment donné une sonnette d'alarme grâce aux surveillants, effectivement, hein, de ceux qui sont dans les étages, qui remontent des informations. À eux seuls, ils ne peuvent pas considérer, on ne peut pas accepter qu'un seul surveillant considère qu'un tel est radicalisé. Je pense qu'il faut une équipe pluridisciplinaire en travaillant effectivement avec les travailleurs sociaux, avec les médecins, médecins, etc. Mais c'est vrai que dès la fin des années 90, avec l'arrivée du groupe islamique armé dans les prisons françaises, hein, certains sont encore incarcérés, hein, des Algériens, il y a eu effectivement une influence assez destructrice en direction de des centaines de détenus de droit commun. Et ça, c'est un phénomène que l'administration pénitentiaire a pu évaluer très vite, début des années 2000, alors qu'au niveau de l'éducation nationale, beaucoup moins, dans les quartiers, beaucoup plus tard.
Bertrand, à Versailles. Bonsoir Bertrand.
Oui, à Versailles, dans les Yvelines.
C'est à vous.
Oui, bonsoir France Inter. Je voulais savoir si les gardiens de prison en contact avec des prisonniers radicalisés bénéficiaient de formations spécifiques.
On va vous répondre tout de suite, Samuel Dehon.
Oui, tous les surveillants qui intègrent c'est des équipes entre guillemets ciblées qui travaillent totalement dans ces quartiers spécifiques. Donc ils obtiennent une formation, notamment sur les cours, sur l'islam, etc. Et ils ont vraiment une formation spécifique en plus de leur formation initiale de surveillant pour leur permettre vraiment d'évaluer la dangerosité et de ces détenus sur ces aspects spécifiques.
Et alors beaucoup de questions courriels hein, concernant l'équipement des gardiens de prison. Cécile Assens, comment les gardiens peuvent-ils se défendre? Ont-ils des armes, des gilets de protection? Michel, face à des détenus très dangereux, radicalisés, pourquoi les gardiens de prison n'ont pas un armement minimum, un taser par exemple?
Alors c'est justement le débat actuellement depuis plus d'un an, depuis l'attentat de Vendin-le-Vieil, puisqu'il y avait eu un mouvement de 3 semaines des personnels de surveillance par rapport à cet attentat, pour demander des moyens de sécurité supérieurs à ce qu'on a, puisque actuellement les surveillants n'ont que leur Motorola, c'est un système de communication, d'alarme, mais ils n'ont pas d'armes, ils ne sont pas armés, ils ont leurs clés et c'est tout, hein. Les collègues,
pas de gilet
pour l'instant.
Anti-lame, c'est ce qui
toujours
qui...
pas pour l'instant.
Oui.
Toujours pas pour l'instant parce que il y a eu un protocole d'accord qui a été signé entre une organisation professionnelle et la ministre il y a plus d'un an et on a toujours rien sur nos établissements, pratiquement rien. Les collègues qui travaillaient dans cette unité de vie familiale étaient dépourvus de ces gilets, ils n'avaient pas de gilet. On a vu le résultat. Je rappelle quand même que nos deux collègues ont failli perdre la vie et ont été sauvés par leur courage, uniquement par leur courage. Ils étaient deux face à deux individus armés, non pas d'un couteau, mais de deux couteaux. Et voilà, ils n'avaient rien pour se protéger, si ce n'est leur système d'alarme, pour appeler les collègues en renfort ou pour essayer de fermer la porte, comme ils l'ont fait, pour circonscrire l'incident.
C'est ce qui explique les mouvements de protestation auxquels on a assisté cette semaine avec des gardiens de prison qui ont manifesté devant des prisons, qui ont bloqué les visites pour dire on veut plus de personnel et on veut un équipement adapté. Sur ce problème de l'équipement des gardiens de prison, Damien Pellen, qui représente les directeurs d'établissements pénitentiaires.
Je ne suis pas sûr que l'armement ou faire rentrer des tasers en détention soit la solution. D'une part parce que ce sont des armes qui peuvent se retourner contre nous, clairement. Et deuxièmement, il y a eu en 2007 des tests dans certains établissements où on pouvait utiliser des tasers et nous avons trouvé, et même les surveillants qui ont pu tester la présence de ces armes ne voulaient pas les utiliser, car trop dangereuse en détention. En revanche, quand on a des soupçons ou quand on doit gérer une personne potentiellement dangereuse ou qui doit ou peut passer à l'acte, on peut mettre des dispositifs internes particuliers pour encadrer les mouvements et accompagner les mouvements de manière à ce que, avec des agents qui sont équipés de tenues partout.
Mais vous dites dispositif interne particulier, c'est un peu technique, expliquez-nous.
Ça veut dire qu'on met plusieurs surveillants pour tous les mouvements de la personne détenue, oui, avec des agents qui sont en tenue qui les protègent.
Alors évidemment, oui, des questions encore courriel, je vous l'ai dit, François de Brive-la-Gaillarde, les personnes qui vont rendre visite à des détenus au parloir, sont-elles fouillées à l'entrée et si oui, comment? Samuel Dehon.
Non, elles ne sont pas fouillées, elles passent sous un portique et elles ne sont pas fouillées. Moi j'étais surpris d'entendre la ministre de la Justice nous dire que les familles étaient fouillées, mais non, les familles sont pas fouillées. Elles passent sous un portique de détection qui ne repère que les masses métalliques. Donc c'est pour ça qu'ils font entrer des couteaux en céramique qui ne sonnent pas. L'explosif ne sonne pas. Donc la sécurité des établissements pénitentiaires est en danger. Puisqu'on le voit bien, puisque ces agressions sont quand même extrêmes. Et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de dispositif réglementaire, législatif, pour mettre en œuvre ces fouilles sur les familles. Il n'y a pas de fouilles des familles. La famille, elle rentre dans l'établissement, elle passe sous le portique. Elle sonne, si elle sonne, oui. On la fait repasser. Oui. Ou alors on lui dit de retirer les choses qu'elle a dans ses poches, etc., pour regarder ce qui sonne. Si la famille ne veut pas repasser ou retirer ce qu'elle a dans ses poches, soit on met fin et on la fait pas rentrer, soit on appelle la police pour venir. Voilà, on n'a même pas le pouvoir de police. On n'a aucun pouvoir de police par rapport aux familles. Tout ce qu'on peut faire, et encore en dernier recours, et ça ne se fait pas sur les établissements, c'est du tapotage. C'est bien marqué dans la note.
Du tapotage.
C'est-à-dire qu'on peut un peu taper sur. C'est pas une fouille corporelle. Oui. C'est pas une fouille par palpation. C'est, on nous dit tapoter. Bah tapoter sur les poches, par exemple. Mmh. Alors tapoter
oui,
sur les
mais
poches.
Vous savez très bien.
Et malheureusement, moi, je suis désolé, mais un établissement pénitentiaire, c'est quand même un établissement où on a des gens extrêmement dangereux. Moi, quand je vais dans un stade de foot, on me palpe à l'entrée. Et pourquoi dans les prisons on ne fouillerait pas les familles et toutes les personnes qui rentrent dans ces établissements et qui peuvent rentrer des choses particulièrement ouais. dangereuses, surtout par rapport au type d'individus qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que nous souhaitons la classification des établissements pénitentiaires, c'est-à-dire des établissements spécifiques en fonction de la dangerosité des détenus. On ne mélange pas tous les détenus ensemble, oui. On classe les détenus selon leur dangerosité et des mesures réglementaires et sécuritaires adaptées au type de détenus qu'on accueille. Mais actuellement, non, les familles ne sont pas fouillées à l'entrée des établissements.
Oui, Zakias, vous voulez réagir.
Je voulais réagir parce que la question des fouilles à nu des détenus a déjà été remise en cause par la loi européenne dès 2009. Donc il me semble compliqué, à un moment donné, de pouvoir fouiller des familles et notamment des personnes qui vont voir au parloir. On sait très bien par où ça passe.
Mais Monsieur Dehon ne parlait pas de fouilles à nu.
Oui, mais on sait très bien
par où.
Oui, mais on sait très bien, et vous le savez très bien, que ça passe par l'anus, par le vagin des femmes. Il y a beaucoup de choses qui passent par là, que ce soit la drogue, que ce soit même quelquefois de la viande, vous le savez très bien, que ce soit peut-être même l'arme en question, en céramique, est peut-être passée par là, vous le savez très bien que ça passe par là. Donc ça semble compliqué de pouvoir faire une fouille de ces individus-là.
On n'est pas d'accord là-dessus, oui, mais ça n'engage que les gens qui travaillent régulièrement.
Damien Pellen, c'est vous le mot de la fin pour les directeurs d'établissements pénitentiaires.
Juste pour le mot de la fin, l'entrée d'explosifs date de 2009 et l'administration pénitentiaire ne s'est jamais positionnée clairement sur les dispositifs qui étaient mis pour les établissements pour fouiller les visiteurs qui rentraient, hormis les portiques de détection. On voit qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas suffisant et qu'il va peut-être falloir évoluer. On sait bien sûr que ça passe la majorité des matières qui rentrent en détention passent incorporées, mais ceci dit, on peut pas faire aujourd'hui avec les faits qui se sont déroulés l'impasse sur l'ouverture d'un débat et se poser des questions sur le contrôle des accès aux établissements.
Merci à nos invités Samuel Dehon, Wizakies et Damien Pellen. C'était le téléphone sonne.